France Inter. Pierre Veil, le 6-9 du week-end.
Évidemment, nous vivons des temps rudes. La menace de la maladie, ce Covid, l'angoisse d'être contaminé, l'angoisse de la souffrance, de la mort peut-être, des conditions de travail nouvelles chez soi, ce télétravail ou alors autre conséquence désastreuse de l'épidémie, la perte d'activité, la faillite, l'entreprise fermée, les comptes dans le rouge, le chômage. Et puis il y a cette menace terroriste, ces assassinats atroces ces dernières semaines. J'arrête là hein, quand même, 2020, c'est clair, c'est pas une bonne année. Comment tenir, affronter tout cela, comment trouver au moins de l'aide? Le médecin psychiatre Christophe André, le philosophe Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, moine bouddhiste et photographe, publient un abécédaire de la sagesse chez l'iconoclaste Alary Édition, avec Patricia Martin, deux invités en ligne. Christophe André, bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Ricard, bienvenue Mathieu Ricard.
Oui, bonjour à vous.
L'incertitude, les peurs que nous vivons, peuvent-elles être vaincues par la sagesse, Mathieu Ricard?
Ah bah écoutez, oui, en temps d'incertitude, c'est le moment ou jamais de prendre davantage conscience de notre humanité commune. Et la sagesse, ce n'est pas une sorte de chose éthérée, mais c'est au contraire extrêmement pragmatique, puisque ça vise justement à être le plus proche possible de la réalité, ce qui mène à une pensée juste, une parole juste et une action juste, donc ne pas tomber justement dans tous les préjugés, les fausses nouvelles, les discriminations, l'éloignement des autres, etc. Donc en fait, c'est un outil extrêmement précieux, c'est le discernement qui doit accompagner la bienveillance pour pas qu'elle soit aveugle.
La sagesse, c'est consentir au réel, comme disait Montaigne.
Eh ben voilà, on s'y retrouve. Heureusement qu'il y a des bons antécédents.
Christophe André, quelles sont, selon vous, les vérités qui apparaissent au cours de cette crise sanitaire que nous révèle cette période de pandémie sur toute la planète? Je veux dire, une planète entière masquée.
Ah ben, toutes les crises sont en réalité des dévoilements, des rappels à l'ordre du réel. C'est vrai que si on cherche vraiment ce que peut-être nous arriverons à retirer de ce qui nous arrive, c'est que ça nous aura ouvert les yeux sur notre fragilité en tant que personne, sur notre fragilité en tant que société également. Et donc, je rejoins tout à fait ce que Mathieu disait à propos de la sagesse. La sagesse, c'est un outil qui va améliorer toutes nos capacités. C'est un de nos amis philosophes, André Comte-Sponville, définissait la sagesse comme le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Autrement dit, la sagesse nous aide à davantage de paix intérieure, mais aussi à davantage de lucidité, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas nous éloigner de ce réel dont parlait Mathieu. Et nous aimons bien rajouter une troisième caractéristique à la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité et le maximum de générosité. La sagesse doit nous aider à nous tourner vers l'action. Le sage, c'est pas quelqu'un qui est inhibé, c'est pas quelqu'un qui gesticule, c'est quelqu'un qui se dirige vers l'action juste en essayant d'améliorer autant que possible le réel qui est à sa portée, du moins.
Patricia Martin, vous vouliez citer, lire un texte que vous avez reçu de la part d'Alexandre Jolien.
Du troisième larron,
oui,
Alexandre
le philosophe.
Jolien, qui est philosophe, et qui vous a envoyé, qui nous envoie à tous un mail que je vous lis. « Bonjour à toutes et à tous. En ces temps troublés où plus que jamais la solidarité est requise, j'aimerais de tout mon cœur vous souhaiter la paix, la joie et la grande santé. Avec une violence inouïe, la pandémie nous a balancé à la face le tragique de l'existence et nous a rappelé les lois de l'interdépendance. Il a suffi que sur un étal d'un marché asiatique traîne un méchant virus pour que toute la planète s'enflamme, pour que des millions de gens soient précipités sur le bas-côté, dans la précarité et dans la mort. » Plus que jamais, nous voilà embarqués tous sur le même bateau, sans qu'on puisse désormais le nier. La compassion se dit en sanskrit « Karuna ». C'est d'ailleurs le nom que porte l'association de Mathieu. Si l'interdépendance, la virulence du Covid font des dégâts, il est grand temps d'opposer au coronavirus le Karunavirus, oserais-je dire. Le virus de la compassion. Je vous entends rire, Mathieu.
Oui, ben justement.
Retroussons, attendez, j'ai pas fini. Retroussons nos manches, épaulons-nous les uns les autres. « Prêtons l'oreille, nous dit Alexandre Jolien, pour que vraiment personne ne se retrouve sur la touche. Si l'idéal de la bonne santé n'est hélas pas accessible à tous, chacun peut œuvrer pour que le plus grand nombre entre dans la grande santé, à savoir inscrire sa vie dans une dynamique et progresser. Alors sans tarder, mettons tout en œuvre pour répondre autour de nous, en appliquant bien sûr les gestes barrières, le coronavirus.
Voilà, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, une réaction ?
Ben, il a tout dit. Alors effectivement, ouais. Caruna, c'est une organisation qui fête ses 20 ans. Et nous aidons 350 000 par an, 3 personnes par an en Inde, au Népal et au Tibet. Et maintenant, nous commençons à agir un peu en France, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Et durant la pandémie et tout le confinement en Inde, nous avons malgré tout réussi à aider plus de 20 000 personnes les plus défavorisées, aide alimentaire, de santé, etc. Donc c'est le moment, effectivement, d'être le plus actif que jamais pour faire preuve de solidarité, tout en gardant effectivement, c'est assez altruiste de se distancer physiquement des autres pour pas les contaminer, mais en même temps faire tout ce qu'on peut pour venir en aide à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont seuls, aux personnes âgées, etc. Et c'est encore plus de solidarité doit être mise en œuvre en ce moment difficile. Et une petite chose aussi, comme Christophe parlait d'un dévoilement, si on regarde toutes les grandes épidémies virales depuis 30 ans, le sida, l'Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine et maintenant le Covid, à chaque fois, ça a été une manière déséquilibrée de nous relier aux autres espèces, soit au travers de l'élevage industriel, soit en troublant l'équilibre des espèces sauvages. C'est quand même assez symptomatique de ce point de vue.
Alors, dans cet abécédaire de la sagesse, quelques mots que j'ai relevés. D'abord, il y a la peur. Et Christophe André, vous dites la peur est l'émotion la plus archaïque.
Oui, la plus archaïque parce qu'on la retrouve à tous les échelons du vivant. Même les organismes alors monocellulaires ou en tout cas de très bas rang dans la pyramide des espèces manifestent des réactions de fuite ou d'évitement de ce qui les menace. Et au fond, cette émotion très forte, très archaïque, reste présente à notre esprit quoi qu'il arrive. Et donc, elle va très souvent tenter de prendre le contrôle de notre cerveau, de nos jugements, de notre regard sur le monde, de notre comportement. Et on pourrait dire que c'est la mère de toutes les émotions douloureuses, de toutes les afflictions. Et donc, vaincre ces peurs, c'est sans doute le pas le plus important que nous puissions accomplir pour regagner en liberté, qu'il s'agisse de liberté intérieure, qui est nécessaire à la sagesse, mais aussi de liberté extérieure.
Alors, j'ai été frappé par un autre mot important dans cet abécédaire, c'est le mal. Et vous écrivez, le mal absolu est un mythe.
Oui, Christophe totalement. C'est moi qui écris ça.
Ah pardon, c'est Mathieu Ricard. Le mal absolu est un mythe, vraiment.
On vous mélange.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, les films d'horreur typiques, c'est que tout le monde va bien, il y a un beau pique-nique, puis il y a quelqu'un qui arrive et dont le seul but au monde est de faire du mal. Ça n'existe pas. Même les pires dictateurs, les plus horribles, les plus sanguinaires, les plus aberrants, pensaient qu'ils faisaient ça pour une certaine cause. Je veux dire, il n'y a personne qui fait le mal simplement pour faire le mal, à part quelques psychopathes. Mais en gros, c'est donc, voilà, il y a toujours des circonstances. Et donc, ça permet d'étudier les causes et les conditions qui mène peu à peu à un génocide, à un massacre, à la discrimination. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est irrémédiable. Et il y a une autre raison pour ça, c'est que si on va au fond du fond, c'est ce que disait aussi Nelson Mandela au bout de 30 ans de prison, on peut toujours trouver au fond d'un être un potentiel de bonté. On voit ça chez les jeunes enfants qui sont plus davantage portés à la coopération et à la bienveillance que le contraire. Donc en tant qu'animal social, on peut devenir des psychopathes et commettre des atrocités, mais en gros, on a une plus forte prédisposition à la bienveillance, on pourrait avoir une sorte de bonté naturelle.
Mathieu Ricard, question pour le moine bouddhiste que vous êtes. Pourquoi notre époque est à nouveau touchée par le fanatisme meurtrier, en plus au nom d'une religion?
Oui, alors ça, c'est catastrophique que les religions se servent comme des drapeaux de ralliement pour diviser les êtres. On n'a jamais entendu parler d'une religion dont le premier prédicament était éprouver de la haine les uns envers les autres. Donc ça ne peut être qu'une déviation. Ceci dit, moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi est-ce que tous les grands chefs religieux ne disent pas, sans la moindre ambiguïté, il est inadmissible de tuer un être humain pour quelque raison que ce soit. Ça serait quand même pas mal. Je me souviens d'une rencontre interreligieuse où il y avait Desmond Tutu qui a dit précisément cela. Aucune religion ne peut admettre le fait de tuer. Alors j'ai dit formidable, faisons une déclaration commune. Il y avait un imam, un rabbin, un cardinal. Ils sont tous regardés en disant oui, il y a des différences culturelles. J'ai dit bah, quand même, c'est la moindre des choses. Eh ben c'est bizarre. Ça devrait être dit clair, haut, fort et net. Et de sorte que personne ne puisse prendre excuse de la religion pour commettre des atrocités.
Et comment est-ce qu'on peut adapter aussi la sagesse au monde moderne ? Mathieu Ricard, on a même fait des expériences médicales sur vous. Vous avez un cerveau et un cœur qui sont complètement en accord avec ce que vous dites. Je dirais par exemple, pour ce qui est du silence, le silence c'est plus facile à trouver au Népal qu'en plein centre de Paris. Je suis sûre que dans un embouteillage, vous n'êtes pas du genre à vous acharner sur le klaxon. Donc comment est-ce qu'on s'adapte en fonction du mode de vie qui est le nôtre ?
Ben, vous savez, bien sûr, c'est comme quand on s'entraîne à quelque chose. Par exemple, les athlètes, ils vont très tôt le matin dans un stade tout seul. Les musiciens, ils font des gammes. Et puis à un moment donné, ou un cavalier qui apprend à monter à vélo, au début on est nerveux, etc. Puis finalement, on peut lâcher les mains et siffloter en faisant du vélo.
Ouais.
Donc c'est vrai que si on acquiert peu à peu les ressources intérieures pour mieux faire face au haut et au bas de l'existence, normalement, on doit garder cette même liberté intérieure et sagesse, quelles que soient les conditions. Si on a le choix, alors en ce moment, je suis en train de marcher au petit matin dans la campagne périgourdine, au soleil.
Vous êtes chez votre maman ? Vous êtes chez votre maman ?
Oui. Mais bon, si j'ai le choix, je peux plutôt là ou dans l'Himalaya. Mais si je me trouve dans les embouteillages, a priori, ça ne devrait pas affecter quelque chose, disons, qui fait partie d'une sorte de deuxième nature.
Alors, dans cet abécédaire de la sagesse, j'ai aussi relevé ce mot très important, l'humilité, Christophe André. Vous écrivez que l'humilité, c'est une forme de libération.
Oui. Alors, l'humilité, c'est une vertu qui est souvent mal comprise. L'humilité, ça ne consiste pas à vouloir s'abaisser, ça consiste à renoncer à chercher à tout prix à être supérieur aux autres, à être admiré, à être acclamé, à faire la course en tête. C'est se débarrasser de ce genre de hocher ou d'obsession pour aller vers ce qui compte vraiment. Et l'humilité serait une forme de solution à beaucoup de nos maux contemporains qui sont effectivement en grande partie, pour grande partie liés à ce que nous apprennent malheureusement les réseaux sociaux, c'est-à-dire paraître, être liké, être suivi, impressionné, présenter tous les côtés rayonnants, victorieux ou pseudo-victorieux de son existence. Et dans ce cas-là, l'humilité nous permet de nous dégager de ces espèces de courses qui sont très stressantes. La course au narcissisme de notre époque est quelque chose qui stresse beaucoup les gens. Plus une personne est attachée à son image, plus elle tourne le dos à l'humilité, plus elle est stressée, plus elle est malheureuse et plus, hélas, elle va faire souffrir et rendre malheureux autour d'elle.
Et comment est-ce qu'on se libère également de la culpabilité ? Parce que la culpabilité, c'est un écran néfaste.
Ah, la culpabilité, on parle bien de la culpabilité au sens psychologique.
Oui.
Alors, il y a une ambiguïté, parce qu'en fait, c'est vrai que l'excès de culpabilité, c'est une souffrance. Au départ, la culpabilité, elle existe dans notre cerveau, la capacité à se sentir coupable existe dans notre cerveau pour
c'est
une bonne
culturel.
Raison.
C'est pas culturel.
Non, pas seulement. Certaines cultures l'amplifient. La culture catholique traditionnelle avait tendance à beaucoup peser sur cette notion de culpabilité. Notre culture contemporaine a tendance à beaucoup nous déculpabiliser, nous dire qu'on est responsable de pas grand-chose et qu'on peut se laisser aller à nos instincts. En réalité, normalement, la culpabilité, c'est ce petit inconfort qui nous force à revenir sur ce que nous venons de faire et à nous demander si on n'a pas mal fait, si on n'a pas fait souffrir quelqu'un, si on n'a pas adopté un comportement, finalement inadéquat. Donc, c'est pas si mal, la culpabilité, lorsqu'elle reste un signal d'alarme. Après, malheureusement, lorsqu'elle prend les commandes de notre regard sur nous-mêmes ou sur les autres, elle peut devenir une entrave considérable. Mais moi, j'ai un peu tendance à réhabiliter la culpabilité. C'est, les gens qui se sentent coupables sont souvent des gens assez attentifs à oui. ce qu'ils font, assez empathiques. Donc, c'est pas forcément un mal, c'est une question de dose.
Et pour
cette distinguer le regret,
Mathieu Ricard.
Oui, on peut distinguer le regret de la culpabilité. Le regret, c'est j'ai brûlé un feu rouge, j'ai une amende, j'en prends la leçon, ou j'ai fait du tort à quelqu'un, j'essaie de réparer ça en faisant du bien, etc. La culpabilité, ça peut être aussi, comme disait Christophe, si c'est excessif. Le gars qui brûle le feu rouge, il dit, je suis nul, c'est toujours comme ça. Et puis à force de se sentir coupable, il brûle un deuxième feu rouge, il attrape une deuxième amende. Donc il faut pas non plus se dévaloriser, mais il faut bien se rendre compte des erreurs qu'on a fait pour les redresser, et après la force, la détermination de devenir meilleur et de réparer le tort qu'on a pu faire à autrui.
Oui, dans cette sagesse importante, les regrets, ce mot est un très, très beau mot que j'aime beaucoup moi personnellement, et Christophe André, vous parlez des regrets chauds et des regrets froids.
Et oui, parce qu'on a beaucoup étudié cette question des regrets. Les regrets chauds, c'est les regrets qu'on a tout de suite. Je fais quelque chose ou je dis quelque chose et je regrette de l'avoir fait. Après, les regrets froids, c'est ceux qui peuvent nous saisir des mois ou des années après. Par exemple, c'est les regrets, vous savez, qu'on peut avoir quand on est parent, en se disant « je me suis pas assez occupé de mes enfants quand ils étaient petits », ou des regrets qu'on peut avoir quand on est enfant, de pas avoir assez accompagné ses parents âgés, toutes ces choses-là. Et donc, ce champ, tout ce paysage des regrets est quelque chose qui dit beaucoup de notre humanité. Et là encore, c'est comme la culpabilité, c'est ce qu'expliquait Mathieu, il ne faut pas chercher à éradiquer les notions de regret, de culpabilité. Il faut simplement comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter et voir aussi jusqu'où elles peuvent nous asservir et nous faire souffrir. Donc, comme beaucoup de caractéristiques psychologiques, c'est une voie du juste milieu que nous avons à tracer au milieu de tous nos regrets.
Mais les regrets, ça nous tourmente.
Bien sûr, mais vous savez, parfois c'est bien d'être tourmenté. Les psychopathes dont parlait Mathieu tout à l'heure sont peu tourmentés finalement. Les grands narcissiques sont peu tourmentés, ils s'en foutent des autres, ils s'en foutent des conséquences de leurs actes. Le seul truc qui les tourmente, c'est qu'on ne les acclame pas, qu'on ne les admire pas, qu'ils ne gagnent pas plein d'argent. Après, la démolition de la planète, la démolition de la société, tout ça, ça leur est complètement égal. Donc, là encore, vous savez, ce dont on est en train de s'apercevoir, et la sagesse, c'est aussi ça d'une certaine façon, c'est que la souffrance, l'inconfort ne sont pas toujours à craindre et toujours à chasser. Il y a une dose de souffrance, d'inconfort que nous devons accepter dans nos vies. D'ailleurs, malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Et surtout, apprendre à affronter, à regarder en face, à mettre à plat et voir comment nous pouvons garder certaines informations de ce petit signal d'alarme qu'est la douleur, qu'elle soit physique ou morale, et comment la dépasser ensuite.
On vous entend sourire, Mathieu Ricard.
Oui, la souffrance, elle n'est jamais désirable en soi, mais comme disait Christophe, comme toute façon, elle est inévitable, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'effondre? Est-ce qu'on devient négatif? Est-ce que on traduit ça par une forme d'agressivité vis-à-vis des autres en systématiquement reportant le blâme sur autrui? Ou est-ce qu'on essaie d'en faire un catalyseur pour grandir, pour avoir davantage de bienveillance, pour s'ouvrir davantage aux autres, pour apporter un remède aux causes de la souffrance? Tout ce qu'on appelle la bienveillance, c'est puisse les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur, et la compassion, puisse-t-il être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Si on ne remédie pas aux causes et qu'on a une sorte d'addiction aux causes de la souffrance et qu'on met sa main dans le feu en espérant pas être brûlé, c'est normal qu'on souffre. Donc il faut chercher les causes et y remédier. Donc la souffrance est aussi un signal d'alarme qui nous indique qu'il y a quelque chose qui cloche.
Et pour clore cet entretien, je voudrais citer Christian Bobin, qui est cité d'ailleurs dans votre livre, « Tout ce qu'on fait en soupirant est taché de néant ».
Merci Christophe André, Mathieu Ricard, nos invités ce matin sur France Inter. Christophe André, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien qui publient chez l'Iconoclaste à Larry Édition cet abécédaire de la sagesse.